50 ans après sa mort, Jean Cocteau est largement célébré cette année un peu partout. L'écrivain, le dessinateur, le cinéaste, toutes les facettes de l'artiste multiforme et presque caméléonesque qu'il était sont explorées, mises en valeur à la faveur d'expositions, d'hommages ou de rétrospectives. Nous allons ce matin nous intéresser à l'homme Jean Cocteau et nous allons le faire au travers des relations qu'il a eues avec deux personnages qui ont marqué son existence et son parcours intellectuel à la faveur de la sortie prochaine d'un film et de la publication dans quelques semaines d'un essai, deux œuvres qui éclairent les relations que Cocteau a eues avec Raymond Radiguet. Nous serons dans un instant en ligne avec Arielle Dombal, réalisatrice d'une comédie musicale, Opium, en salle le 25 septembre. Et puis autre relation de Cocteau que nous allons explorer, celle avec Marcel Proust. Bonjour Claude Arnaud.
Bonjour.
Romancier, essayiste, biographe de Jean Cocteau. On se souvient de votre biographie, hein, il y a 10 ans, qui a été largement rééditée depuis, mais qui a fait date. Vous allez publier au tout début du mois de septembre un essai passionnant sur la relation méconnue et pourtant fondamentale entre Cocteau et Proust. Ce sera chez Grasset, Proust contre Cocteau. C'est vrai que c'est peu connu aujourd'hui, mais les deux hommes se sont connus très tôt.
Oui, très tôt, 1910, et donc jusqu'à la mort de Proust. Pendant 12 ans, on a eu des liens très, très profonds, très marquants, pour l'un comme pour l'autre. Paradoxalement, Proust, qui est l'aîné de près de 20 ans de Cocteau, se retrouve presque en position de cadet littéraire, étant plus tardif. Et donc, il y a une espèce d'étrange renversement qui, je crois, fait un ressort dramatique puissant.
Et vous l'exploitez dans cet essai qui pourrait d'ailleurs prendre des allures de roman parfois, tant effectivement le ressort dramatique est
puissant.
Jean Cocteau a été un des rares auteurs du Paris du début du 20e à croire en Proust au début.
Oui, au tout
en
début.
En 1913.
En 1913,
la publication du premier tome.
Premier tome de la recherche. Ils sont 5-6 critiques, vraiment pas plus. Tous d'ailleurs connaissent plus ou moins personnellement Proust. Mais lui est sans doute un des plus, à la fois le plus jeune et le plus connu de tous ces jeunes critiques. Et alors que Proust est encore, pour beaucoup, pour de très nombreux Parisiens, un simple snob poussif qui annonce depuis 10 ou 15 ans un grand œuvre et qui ne fait que des petits articles mondains dans le Figaro, voit tout de suite qu'il y a une œuvre puissante qui est en germe là. Et donc le dit très clairement avec beaucoup de chaleur, d'enthousiasme et de générosité. Ça, Proust ne l'a pas oublié.
Il a essayé donc de favoriser la publication aussi du
bien
côté
sûr,
de Chesson,
sûr,
qui a été problématique au début.
Très, très, très problématique, bon, ça on le sait. Voilà. Voilà, oui.
Mais ce qui nous intéresse, c'est que ça montre une facette de la personnalité de Jean Cocteau qui, à 20-25 ans, était une flèche, un jeune homme pressé dans le milieu artistique parisien.
Un jeune homme très pressé. D'ailleurs, Proust commence assez vite à lui reprocher, tout en étant extrêmement admiratif et séduit par moments même, n'étant pas loin de se déclarer amoureux, très séduit par cette vélocité, cette intelligence, cette hypersensibilité qui les rapproche beaucoup. Hein. Il y a plein, à un moment, Proust a fait une dédicace à Cocteau en parlant de nos esprits, ces miroirs jumeaux. Il y a quelque chose de ça. Et en même temps, Proust, beaucoup plus lent et plus profond, et c'est indéniable. Et du plus profond de cette profondeur océanique, il juge cette vitesse comme un effet de surface. Pour Cocteau, il n'a pas tort.
Cocteau est comme une guêpe joyeuse, hein, vous reprenez cette image, alors que Proust est la reine abeille qui a besoin de rassembler son énergie pour pondre. Ça montre la différence entre les deux.
Oui, j'utilise ici l'image piquée à la fontaine du lièvre et de la tortue. Le lièvre Cocteau bondit en permanence, va très très vite. La tortue Proust part avec un retard énorme et finalement va le doubler sur le poteau et l'enfoncer. Je le grimpe pour très longtemps.
Proust a pastiché Cocteau.
Oui, il y a un texte encore inédit où Proust imite le style de Cocteau qui était déjà très très précocement formé quand il avait 20 ans, alors que Proust se vivait comme un styliste pâteux, difficultueux, qui n'arrivait jamais à se démêler.
Besogneux, un laborieux.
Oui, il se vivait comme ça, il se vivait comme ça. Et donc effectivement, il y a quand même une fascination pour cette rapidité de pensée et de formulation de Cocteau qui effectivement a des doigts d'or de ce point de vue-là, ou une langue de cristal, qui arrive vraiment à une sorte de transparence poétique par rapport à son propos. Donc il y a aussi une fascination, mais la fascination se retourne très vite en reproche.
Voilà, on va voir comment ça va évoluer.
Ça va être très compliqué.
Proust, cadet littéraire de Cocteau, ça c'est l'étonnement au début du XXe siècle. On va voir comment les choses vont évoluer, notamment après la guerre et puis après 1919, le prix Goncourt.
Le Goncourt,
attribué à Proust. Bonjour Arielle Dombal.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, comédienne, chanteuse, cinéaste. Vous aussi célébrez Cocteau cette année. Et ce sera avec un film, Opium, qui a été présenté à Cannes, dont la sortie en salle est prévue fin septembre. Un film dans lequel vous jouez également aux côtés de Grégoire Collin, Samuel Mercier, et Hélène Filière, Julie Depardieu. On reviendra sur ce casting peut-être tout à l'heure. Très belle distribution. C'est un film très musical, c'est même une comédie musicale.
Voilà, une comédie musicale. Je suis partie des sonnets de Cocteau, des tout premiers sonnets et des plus connus. Je voulais, puisque nous avons la chance d'avoir aussi Claude, d'être ensemble, signifier que sa biographie de Cocteau a été une de mes sources vraiment absolues pour écrire ce scénario. J'aime beaucoup Claude Arnaud et l'admire infiniment. Je n'ai pas encore lu son livre et je vais le faire.
Mais c'est normal, il n'est pas encore sorti, mais je vous le conseille. Effectivement, il va sortir très bientôt. Vous avez fait le choix, Ariel Dombasle, de mettre en musique de nombreux textes de Cocteau, un peu comme ça s'était fait à un moment donné aussi du début du XXe siècle avec le groupe des Six. Cocteau était très proche de la musique.
Il y a cette effervescence artistique tellement étonnante. Moi, je prends Cocteau, qui a une vie très vaste, très riche. Je prends le très jeune Cocteau, juste ces deux années, ces trois années où il est amoureux de Radiguet. C'est là-dessus, c'est autour de ça que se cristallise le film, autour de cette fulgurance amoureuse et aussi de cette intoxication amoureuse et de l'opiumane qu'il deviendra et qu'il fera toute sa vie.
Voilà.
Mais c'est une période où la musique fait complètement partie intégrante de la vie de Cocteau. C'est l'arrivée du jazz qui envahit Paris et qui est dans toute la musique d'avant-garde de l'époque. L'origine du cabaret, du bœuf sur le toit, c'est toute cette période-là sur laquelle je me centre.
C'est-à-dire qu'il n'était pas musicien, c'est un des rares talents peut-être qu'il n'avait pas, ou en tout cas qu'il n'a pas exploité.
Il joue du piano quand même. Oui, il a un grand sens de la musique, il est capable de lire des partitions et même parfois de suggérer quelques conseils à ses amis du groupe des Six quand ils mettent en musique ses poèmes. Donc il a quand même une très bonne très
Je retire ce que je viens de dire. Il était très proche d'Éric Satie. Hein.
Voilà, oui. C'est son grand maître.
Au moment de Parade.
Oui, Parade, c'est son grand maître. Et il avait deux maîtres, l'un qui avait 70 ans, Éric Satie, et l'autre qui en avait 20, Raymond Radiguet. Et donc, oui, j'ai pris les poèmes les plus connus de cette époque, Plein Champ, L'Ange Ortebise, Oedipe Roy, et avec Philippe Evenot, donc mon compositeur, nous avons structuré ce film de manière complètement musicale. C'est une comédie musicale.
Votre intrigue à vous, c'est donc cet amour de Radiguet, amour contrarié, qui fait effectivement plonger Jean Cocteau dans l'opium. Et vous décrivez, Ariel Dombasle, toute une constellation qui tourne autour de Cocteau dans ce Paris des années 20, début des années 20. Une constellation avec au centre Jean Cocteau. Hein. C'est le soleil qui brille au centre de tout ça. Hein.
Voilà, parce que Cocteau était ce personnage donc qui a su décliner son art et prendre tellement de formes, prendre tant de véhicules pour exprimer son être. Et voilà, il a été un moraliste, un esthète, un fabuliste, quelqu'un de très insaisissable et extraordinairement inventif. Mais il a su, et notamment pour le cinéma, il croyait à cette magie de la rencontre et du fait qu'il y avait une renaissance à chaque fois qu'il y avait une rencontre inspirée. Et donc il y avait tout ce cosmos autour de lui, de gens tout à fait étonnants, et ils se sont révélés mutuellement, une espèce de décharge électrique, des créations conjuguées.
Alors, il y a cette facette aussi de Jean Cocteau qui est la consommation d'opium. Claude Arnaud, vous racontez dans votre essai Proust contre Cocteau qu'à partir de la fin de la guerre, ça va pas très bien pour Jean Cocteau. Proust, qui était son, pratiquement son élève, donc, comme vous le disiez.
Enfin, son, je ne dirais pas son élève, mais en tout cas, effectivement, oui, en position de cadet, pratiquement. Voilà, oui, son cadet, oui, il se retrouve, oui, après le concours en 19, extrêmement célébré, et très vite, oui, canonisé, et puis... Après, bon, progressivement, parce que c'était quand même progressif, la canonisation de Proust est par étapes. Mais enfin, Cocteau meurt en 63, il a le temps de voir cette canonisation en marche. Donc il y a un effet déroutant. Il y a beaucoup de phénomènes qui se conjuguent dans les années 20 pour le pousser à une sorte de désespoir. Là, la mort de Radiguet, c'est indéniable. Il se sent responsable et il a l'impression de l'avoir poussé à la mort en le poussant à trop travailler. Et c'est précisément ce que Proust, lui disait tout le temps, allez au bout de vous-même, ne vous contentez pas de surfer sur votre propre brillance, sur vos propres intuitions, plongez en vous-même comme un scaphandrier, allez voir là-dedans, allez voir en bas, allez voir dans vos propres abysses tout ce qu'il y a. C'est ce que, évidemment, Proust lui-même avait fait, et ce que Cocteau n'était pas porté à faire par tempérament, par nature. Mais néanmoins, il avait poussé Radiguet à aller au bout de ça, et effectivement, Radiguet meurt à peine 20 ans, et il a déjà de romans magnifiques. Et donc, il a l'impression de l'avoir tué d'une certaine façon.
C'est-à-dire que Cocteau se cherche un peu comme un arlequin, il a plein de facettes. Et,
oui. Bien sûr, il y a de ça. Et en même temps, il s'éprouve constamment, Ariel Dombal l'a dit, à travers des rencontres qui le métabolisent, qui encouragent des métamorphoses, des mues puissantes dont il tire des effets parfois extraordinaires, parfois déroutants, parfois catastrophiques. Mais c'est sa grandeur, je dirais, c'est sa beauté, c'est de jamais être conservateur de lui-même, jamais se mausoler. Léifier, toujours essayer de tirer de nouveaux Cocteau de ce corps étrange, douloureux, mobile, opiomane aussi, beaucoup. Oui.
Ouais. Ariane Lombal ?
Absolument, et c'est ce que j'aime, enfin ce que nous aimons tous chez Cocteau, c'est qu'il est ce fabuliste, ce grand esthète, ce moraliste aussi, mais c'est cette espèce de feu follet, cette invention de chaque moment, et cette douleur aussi. C'est un être très insaisissable, mais quand on le lit, il a ce grand sens du tragique aussi. Ce n'est pas du tout, c'est pas un cocktail des Cocteaux, c'est quelqu'un d'extrêmement profond et qui met un éclairage sur son époque absolument extraordinaire dans ses confessions, dans toutes les anecdotes, voilà, et sur le sens de la vie aussi. C'est un immense artiste, et j'aime son immense vulnérabilité. C'est ce que je préfère en lui, c'est ces nerfs à fleur de peau. D'ailleurs, il avait beaucoup de problèmes de peau, d'eczéma, qui était une traduction un peu de ces diables intérieurs.
On le voit dans votre film, ça. Ouais. Un cocktail des Cocteaux, hein, c'est le bon mot d'André Breton.
Ce n'est qu'un bon mot, oui. Ce n'est qu'un bon mot. Non, c'est quelqu'un de très profond, je suis tout à fait d'accord, très, très, très douloureux, vraiment tragique, et plus les années passent et plus le tragique s'impose. Et c'est vrai que, comparé à Proust, il a une politique absolument aux antipodes, une politique littéraire aux antipodes. Proust tente de se rassembler dans cet énorme opus qu'est la recherche. Et alors, ce sont quand même... Il y a une dimension composite, hein. C'est évidemment pas un autoportrait littéral, c'est un autoportrait transposé. C'est des morceaux de Proust, hein, on peut dire, qui sont rassemblés. C'est un kaléidoscope, on peut utiliser toutes les images. Lui-même en avait pas mal. Il est sûr que c'est ce qui lui a valu des titres à la canonisation, car il conçoit son œuvre comme une cathédrale, et au centre de cette cathédrale, une sorte de Marcel Proust, qui est le narrateur, on pourra peut-être en discuter, gît en gloire et en sainteté au centre, et comme virtuellement. Cocteau, lui, se crée des dizaines de petites chapelles, de petits lieux de culte, de petits films, de poèmes.
Et il souffrait un peu de ne pas pouvoir construire une cathédrale, de ne pas avoir la force morale.
Voilà, il y a une forme de jalousie chez lui à la fin qui est très flagrante, je trouve, et son jugement de plus en plus dur sur la recherche, lui, qui avait commencé très enthousiaste, comme vous l'avez souligné, devient de plus en plus dur, entre autres dans son journal Le Passé Défini, parce que je pense qu'il y a une jalousie littérale assez classique chez les écrivains devant cette gloire insensée de Proust. Et en même temps, je pense, oui, un sentiment douloureux que sa tentative extraordinaire de se démultiplier n'avait pas été aussi payante. Et que Proust, dans ce vieil imaginaire monarchique et chrétien de la cathédrale, centralisé avec ce souverain qui est virtuel, qui est lui-même au centre du livre, avait emporté la mise, alors que lui, avec sa politique infiniment plus moderne de démultiplication de soi, de jeu avec soi, payait quand même assez lourdement une addition critique avec cette réputation qu'il a quand même en partie dépassée depuis, je dirais, la grande exposition que Beaubourg lui a consacrée. Je pense que
et votre biographie aussi,
voilà,
il y a
aidé. Il a aidé. Donc ça va mieux, nettement mieux depuis 10 ans, mais il y a encore quelque chose qui reste. Et mon propos n'est pas du tout de mettre son œuvre à égalité avec celle de Proust. Il n'y a pas d'égalité en littérature. C'est simplement de dire, voilà, c'est une toute autre politique à partir d'une sensibilité extrêmement voisine. C'est une autre politique, mais qu'il faut considérer avec respect. Elle est remarquablement conséquente. Elle est extrêmement audacieuse. Voilà, elle a été périlleuse aussi.
Claude Arnaud, au fur et à mesure que Proust devient incontournable, il l'a été très vite, mais tout au long du XXe siècle, Cocteau s'est senti au fur et à mesure un peu délaissé, trahi. Il montre une certaine forme de jalousie aussi.
Oui, 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 de jalousie et d'amertume.
Parce qu'il est un peu contre l'image du personnage.
Oui, il est très généreux. Il est très généreux au départ. Je crois que ça, personne ne peut me dire les contraires. Il a été si généreux avec tous les Radiguet, les Picasso, les Satie, les Genet plus tard. Il a contribué à lancer tellement de gens. Ça, je crois qu'il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Disons que cette générosité, au bout d'un moment, c'est comme si elle s'arrêtait à lui. Il n'arrivait pas à être aussi généreux avec lui-même. Il n'avait pas une politique aussi intelligente avec lui-même. Et on ne lui rendait pas cette générosité à son sujet. Donc il y a une sorte d'amertume, c'est indéniable. Ça lui fait dire des choses injustes ou, je dirais même, parfois inintelligentes à la fin. Entre autres sur La recherche du temps perdu, où il a des jugements beaucoup trop durs et beaucoup trop obtus. Et en même temps, là où il est fascinant, et c'est pour ça que ça m'intéressait de tirer cette pelote, c'est qu'il connaît l'envers de La recherche du temps perdu. Il connaît l'envers du petit Marcel Proust. Il sait qui est derrière le narrateur. Il manque la transformation du petit Marcel en narrateur anonyme, qui n'a plus du tout la même sexualité, qui ne semble plus du tout
avoir... Qui
se cache complètement. Donc il connaît les cachotteries de son ami Marcel. Il voit très bien en quoi ce narrateur est un produit aussi de cette cachotterie fantastique, puisque personne ne doit dire son homosexualité et que tout le monde est interdit. Et il connaît d'autant mieux l'envers qu'il connaît tous les modèles de La recherche, entre autres la comtesse de Chevigné. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est une clé fascinante. La comtesse de Chevigné est évidemment un des grands modèles de la princesse de Guermantes. Voilà, il voit très bien en quoi Proust essaye de capter la femme réelle dans la femme fictive et tous les jeux d'aller-retour entre les deux. Donc, il est plus sévère que d'autres. Oui.
Ariel Dombal, ce portrait du Cocteau des années 50-60, il vous satisfait
Oh oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout me satisfait venant de la bouche de Claude Arnaud. L'écrivain par excellence. Et de Proust, je ne sais pas, mais en tout cas de Cocteau, oui. Et non, mais pour Madame, Madame de Chevigné, elle habitait 10 rue d'Anjou, dans le même immeuble que Cocteau. Alors, en effet, il y avait toute cette connaissance du Proust. Capitaine Memo entouré de ses livres dans la fameuse Guérite de Liège et des lectures que lui faisait Proust. Proust lisait à Cocteau et dans des cascades de rire. Il pouffait de rire, il n'arrivait pas à se relire. Il y avait toute cette fascination qu'exerçait aussi l'homme, mais aussi un homme qui était facile à caricaturer aussi. Moi, je ne connais pas bien le Cocteau de la fin. J'ai donc pris ce Cocteau extrêmement vulnérable à la sortie du jeune homme qu'il fut. Et c'est celui-là que j'essaye de dépeindre dans le film Opium.
Film qui sort en salle le 25 septembre. Merci Ariel Dombal. Opium avec Grégoire Collin dans le rôle de Cocteau, Samuel Mercé dans le rôle de Radiguet, et puis Hélène Filière,
très curieux de le voir.
Julie Depardieu, Philippe Catherine, vous irez, hein, Claude Arnaud, à partir du 25 septembre, et Ariel Dombal, vous lirez l'essai de Claude Arnaud, Proust contre Cocteau. C'est passionnant, hein, on y croise tout ce que le Paris du début du XXe siècle comptait d'artistes, de mondains, d'aristocrates. On voit aussi comment tout change après la guerre pour la vie artistique parisienne. Et pour Cocteau, c'est chez Grasset, parution le 4 septembre.